Radio Silence, bonjour. J'aurais voulu commencer cette émission en poussant, je n'ai pas envie de dire une chansonnette, mais une louange à la gloire du Seigneur, parce qu'on va en parler. Mais malheureusement, je ne suis pas dans des conditions techniques permettant cela. Comment ne pas réagir à la mort de George Floyd aux États-Unis? Ce qui s'est passé, c'est à la fois dans la logique des choses et à la fois tout à fait insupportable. D'abord dans la manière, je veux dire, étouffer quelqu'un comme cela, sans vergogne, je veux dire, même un animal, on ne le tue plus comme cela. Et ils étaient quatre, un qui performait, comme disent les Américains, et les trois autres qui regardaient. Comme on élimine un homme, c'était vraiment comme le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Il n'y avait aucune différence. Il y a des gens, il paraît, qui filmaient et qui disaient « Mais arrêtez, vous allez le tuer ». Celui qui appuyait, il avait carrément les mains dans les poches. Mais c'est une image insoutenable. Donc, bien sûr, on sait que les Noirs sont éliminés aux États-Unis, mais là, c'était trop. Et bon, moi, comme d'habitude, hein, vous savez, mon parti pris, si j'ai la trajectoire que j'ai, parce que j'aurais pu aussi, voyez, aller dire oui à tout, et je serais très bien, ma vie serait très bien. Je vais dire, qu'est-ce que j'ai envie aux gens qui sont bien placés? Rien du tout. Au contraire. Je serais très bien, mais il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer. Bon, moi, je suis plus qu'indignée, je suis dégoûtée, c'est ça, germé. C'est facile, vous allez me dire, de dire cela, mais moi, je peux le dire. Je peux le dire parce que je revendique le statut de troisième élément dans cette confrontation qu'il y avait permanente entre les Blancs et les Noirs aux États-Unis. Pourquoi je dis que je revendique ce statut? Moi, quand je suis arrivée aux États-Unis, franchement, j'ai même un trou, je ne sais plus, j'ai envie de dire 2015, mais je ne crois pas, parce que ça fait seulement en 2025 ans, non, c'est un peu plus antérieur que cela, peut-être 2014, franchement, j'ai un flou, je ne sais plus, parce que trop de choses se sont passées, mais ce que je sais, c'est que je suis la politique américaine depuis l'arrivée d'Obama en scène, en 2008 précisément. Et donc, je me suis dit, je vais aller aux États-Unis, je suis allée au moment du mandat de Barack Obama, qu'on a soutenu, nous les pauvres noirs, et qui nous a superbement ignorés. Enfin, bon, moi, c'est vrai, je n'étais pas américaine, mais quand même. Il fallait, à ce moment-là, mettre en lumière qu'il n'y a pas un axe noir, un axe qui transcende les territoires, la géographie, et c'est bien beau de s'appeler afro-américain, si on ignore les Africains, ça ne sert à rien. J'ai vu cela et puis j'ai vu comme ça une forme de léthargie, de faiblesse des Noirs américains devant la white supremacy. Surtout, ils étaient tétanisés par cette forme de rappel sur la non-violence du docteur Martin Luther King. À chaque fois qu'on tuait quelqu'un, ah ben oui, vous savez, le docteur Martin Luther King, votre leader, il a dit de pardonner. Vous savez, la Bible dit quoi ? Vous donnez l'autre joue lorsqu'on vous a giflé sur la joue droite. Et les Africains, Américains, ils gobaient cela. C'est un consensus, pas mou, mais vraiment dégoûtant. Et moi, là-dessus, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour réveiller ce peuple? Pas parce que, oui, parce que je suis noire, c'est vrai, mais aussi africaine, oui, c'est vrai, tout cela. Mais parce que cette conscience-là rejaillit sur l'humanité. Il fallait donc faire un travail en rappelant aux Noirs quand même une forme de conscience historique de venir de l'Afrique, c'est pas rien. Ça veut dire que si de venir de l'Afrique, c'est pas rien, il faut remonter à l'histoire africaine. Ils avaient une mémoire comme ça endormie, il fallait les réveiller par rapport à cela. Et tout ce réveil et ce rappel, moi j'en suis fière, ça sonne, ça leur a donné. C'est une source énergétique que je revendique, parce que le troisième élément que moi j'étais, mais pas seulement moi, je peux dire des gens comme je suis venu en force extérieure, je viens renforcer des gens comme le sénateur Ron Paul, et peut-être d'autres voix marginalisées totalement, sur cette thématique-là du connais-toi-toi-même, de Socratique, parce que c'est très important de se connaître. Tu viens d'où, tu es qui, tu es quoi, et qu'est-ce qu'on te raconte? Est-ce que ce scénario, enfin, ces discours, cette narration correspond à la vérité? Est-ce qu'elle te renvoie ta vraie image? Et même si tu viens je vais dire, de la boue, tu ne peux pas accepter d'être traité comme cela. Donc, moi, chaque fois qu'il y avait un crime, Obama disait, lorsqu'on a tué Trayvon, un petit jeune, que ça aurait pu être son fils. Mais ça, c'est pas mon problème, ça. Moi, j'ai dit aux gens. De la même façon qu'on avait, vous savez, dans une église, je crois, j'ai oublié le lieu, mais je crois en Caroline du Sud, ils ont, en Caroline du Sud, oui, je crois, ils sont allés à une église, ils ont liquidé comme ça, je crois, 9 ou 10 ou 19 personnes au cours d'un enseignement biblique. Incroyable, les gens sont encore là à dire je leur pardonne. Alors, il y avait une qui était là, qui a perdu sa sœur et qui dit je pardonne. Non! On ne peut pas pardonner cela parce qu'il y a une justice républicaine. Et si la justice républicaine ne s'applique pas, alors la justice du peuple, de la rue, doit s'appliquer. Moi, ça a toujours été ma position, évidemment. Ça, c'est des positions qu'on juge extrêmes, mais c'est du réalisme. Vous vous rendez compte? Ils arrivent maintenant avec des situations qui datent depuis 1600, je ne sais pas combien, 1800, je ne sais pas combien, ils datent tout cela. On ne peut pas accepter, on ne peut plus accepter cela. La mort de George Floyd, de la façon dont elle s'est passée, franchement, il y aura un avant et un après lui, tout simplement parce qu'il y a quelque chose de plus qui se joue depuis là. C'est qu'au même moment où on essaye de réveiller le noir à sa propre identité, première, si on peut le dire, hein, africaine, c'est peut-être mieux. On est obligé de parler d'Israël. On est obligé de parler d'Israël parce que, quelque part, le monde juif, comme on dit, étant celui qui domine. J'aurais dû vous annoncer d'abord que vous écoutez Radio Silence, Flash sur le Monde, c'est Elise Mbok depuis le Cameroun, je vais dire comme ça, parce que entre mon village, ça c'est une zone profonde, comme ça rurale, et la ville, la capitale, bah, des va-et-vient permanents. Au moment où j'enregistre, je ne sais même pas si ça va passer, parce que dans les villages profonds, le réseau, hein, ça bug, et puis probablement qu'on va savoir que je vais réagir sur cette actualité, donc ça va bugger. Deux fois plus, c'est le sous-développement, c'est pas du sous-développement, c'est de la colonisation permanente. On est toujours en plein. Et donc là, c'est des sujets sur la colonisation, parce que se cherchant le noir américain, l'histoire rejaillit. Donc, qu'est-ce que c'était l'Antiquité? Il semblerait que nos traces africaines remontent à cela. Les pharaons étaient noirs. À ce moment-là, ça ne concerne plus seulement l'Amérique, ça concerne donc tous les noirs du monde entier et surtout l'Afrique. Du coup, les Africains aussi vont chercher. C'est quelque chose qui a été formidable. Et en même temps, en allant chercher, on est obligé de remonter donc l'histoire de l'Antiquité, de la Rome, de la Grèce, je crois, de la Rome, etc., et d'arriver au fait religieux, puisqu'on dit au commencement a été, voilà, je ne sais pas où était Dieu, et puis c'est cela, au commencement, et ce commencement, on le date avec Jésus-Christ qui était présenté comme un blanc. Et là aussi, on se met à interroger les choses. On interroge les choses et là, on interroge la white suprématie qui s'appuie justement sur ce commencement, était Dieu et était le Verbe, pardon. Et le Verbe était Dieu, il était avec Dieu. Bon, vous connaissez le début absolument poétique, fantastique du livre de l'apôtre Jean. Jésus blanc, ça donne le concept qui a alors tout faussé depuis, le concept de peuple élu. Le concept de peuple élu, comment peut-on soutenir une hérésie pareille? Moi, j'ai toujours dit, c'était de la folie. Le concept de peuple élu est celui qui a engendré des institutions illégitimes parce que toutes ces institutions étaient basées sur ce concept-là, qui fait que s'il y a des inégalités, quelque part, c'est divinement acceptable, justifié, parce qu'il y a un peuple élu, c'est que lui qui peut être devant et vous derrière, vous comprenez? Et il a même le droit de vie et de mort sur vous. Alors, du coup, on pose la question, mais c'est quoi ce peuple élu? C'est quoi ce peuple élu? J'ai rencontré comme ça, au hasard, parce que vous savez, Dieu bénit hein, celui qui cherche. J'ai trouvé qu'il y avait un Israélien qui s'appelle Shlomo Sand, qui réfléchit là-dessus et je suis tombée sur deux vidéos. Alors, c'est plusieurs. Hein. Il y a d'abord celle qui pose la question du comment le peuple juif fut créé, fut inventé, pardon, et comment l'État d'Israël fut créé. Donc, pour lui, c'est clair, il a fait toutes ses recherches et il n'existe nulle part d'État Israël tel que la Bible le décrit. Ça n'existe pas. Par contre, il est d'accord que, bon, déjà, les Juifs, s'il faut en parler, ce n'était pas un peuple ou une race, mais c'est quelque chose comme ça vient avec la religion. La religion qui était une religion quand même assez contraignante parce qu'il fallait tous être juifs, sinon hein, il y avait des problèmes, il fallait s'en éloigner. Et ils sont constitués en peuple par la religion, pas par les gènes. Donc il précise ça, c'est important. Il a essayé de situer cela entre deux mers, là, je ne sais plus très bien, je vous mettrai le lien. Et il dit très bien que si les Juifs, l'Europe n'avait pas craché les Juifs, et si l'Amérique n'avait pas fermé la porte aux Juifs, les Juifs, il n'y aurait jamais eu d'État d'Israël. Voyez? Donc, pour lui, la Bible, ce n'est pas un livre d'histoire, dans ce sens que l'histoire serait vraie, réelle, les faits, etc. Et il y aurait une... Non, non, c'est plutôt, on a toujours dit ça, une allégorie de la vie. Une allégorie de la vie. Et que certaines personnes ont exploité, comme vous l'avez vu, en créant l'État d'Israël. Il n'y a jamais eu, les Juifs n'ont jamais été expulsés de la Judée, et que auquel cas ils seraient fondés en droit de revenir récupérer leur territoire. Non, ça n'a jamais été vrai. Donc c'est un territoire vraiment palestinien. Mais ceci étant dit, il précise que les Juifs, bon, bien que n'ayant vraiment pas de droit historique sur cette terre, sont quand même là, comme tous les autres États en fait qui se sont installés de cette façon-là. Vous voyez, l'Australie, c'est un peu ça. L'Amérique même, c'est un peu ça. La France, même on ne peut pas dire à quel moment on commence à être français. On dit que c'est avec Clovis. Les peuples ont bougé, se sont installés quelque part. Donc les Juifs, ce serait un peu cela, ils se sont installés quelque part avec le mouvement sioniste. C'est quand même étonnant, le mouvement sioniste est un mouvement impulsé par les évangélistes qui parlent du retour des Juifs sur la terre. Et vous verrez justement qu'avec ces événements-là, les enfants qui cassent tout, qui ont cette énergie-là, qui démolissent des institutions illégitimes, vous n'entendez pas les pasteurs. C'est pas étonnant. Parce que ce sont eux qui sont un peu à la source de cette escroquerie-là, pardon, pardon, pardon pour les mots d'escroquerie, mais c'est un peu ça, escroquerie de l'histoire, retour des Juifs sur une terre promise. En parlant de terre promise, oh, monsieur Shlomo Sand, il est béni, il est intéressant, je ne vous dis pas. Il dit que la notion de terre promise est liée à la foi. Donc Dieu, c'est une notion conditionnelle. Dieu vous promet une terre dans la mesure où vous croyez en lui et dans la mesure où vous ne péchez pas. Si vous péchez et si vous n'avez plus de la foi, telle qu'elle est définie par la Bible, donc, il n'y a plus, la notion de terre promise n'existe pas. Ce n'est pas possible. Et aussi, tout aussi bien, la notion de terre promise n'est pas une propriété. C'est-à-dire qu'elle n'est pas définitive, étant donc conditionnelle. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous déclarer peuple élu de façon définitive. C'est votre foi qui vous fait peuple élu. Et qu'est-ce qu'on constate si on parlait de la foi? Mon Dieu, la foi, effectivement, c'est les Noirs aujourd'hui qui semblent l'avoir plus que les Blancs. Et plus que ça, il y a la notion du Messie, le messianisme. Dans la Bible, il est écrit quand même que Israël on avait promis cette terre aux Juifs. Mais là aussi, c'était sous une condition. Ils ne pouvaient pas entrer dans cette terre tant que le Messie n'était pas arrivé. Donc, la notion du messianisme est très controversée dans le judaïsme parce que eux, ils ne reconnaissent pas, oula, il pleut à verse, là, on est en Afrique, ils ne reconnaissent pas le Christ, donc le Messie. Donc, comment donc vous qui ne reconnaissez pas le Messie pouvez revendiquer l'appartenance ou la propriété d'une terre promise par Dieu alors même qu'il a dit que cette appartenance était conditionnée à l'arrivée, à la reconnaissance de l'arrivée du Messie. Si vous n'avez pas reconnu le Messie, vous n'avez pas le droit de posséder cette terre. Donc, on est dans des contradictions lorsqu'on compare vraiment, que ce soit la Bible ou l'histoire réelle, avec cette notion d'un peuple juif déjà unitaire et d'une légitimité, voilà, d'Israël à être là où ils sont. Donc la question de George Floyd qui se pose, de sa mort, que sa mort pose clairement, c'est la légitimité des institutions, la légitimité même de son fonctionnement et la légitimité de comment je vais dire, de l'histoire même du monde et forcément de l'histoire de l'humanité. Donc, procès en illégitimité, c'est ça le titre de cette émission. La police n'a pas le droit, je veux dire, on ne peut même pas parler d'invoquer la Constitution ici, ça ne sert à rien. D'un point de vue moral, religieux, humain, la police n'a pas le droit, comme tout être humain, d'enlever la vie à quelqu'un qui est menotté, couché par terre, qui ne représente aucun danger, qui est totalement immobilisé. Non, la police a dépassé les limites. On s'est réjoui. Les quatre policiers ont été virés, illico. Et il y a un seul, je crois, qui va faire, c'est le tueur, qui fera l'objet d'un procès. Mais ça ne suffit pas. Les quatre doivent faire l'objet d'un procès, parce qu'ils doivent être associés à ce procès parce qu'ils sont co-meurtriers. Ils savaient bien ce qu'ils faisaient, puisqu'après, d'ailleurs, il y a. Bon, laissant tomber ce côté-là. Ce procès en illégitimité est ce qui fait qu'on a brûlé, les citoyens américains ont brûlé leur drapeau. Pourquoi pas? Ils brûlent ce drapeau parce que c'est un drapeau qui, je veux dire, qui leur fait penser, qui reflète la société telle que George, par hasard, Orwell l'a décrite. Une société basée sur le mensonge total, la réécriture de l'histoire, de la brutalité de la société, la violence, son terrorisme. Et les institutions sont aujourd'hui considérées comme des machines à produire des meurtres symboliques. Trump, là-dessus, il est maladroit lorsqu'il invoque la force militaire, non, pour résoudre le problème. Et je ne sais pas qui conseille à faire ça. Parce que toutes les institutions sont critiquées et sont jugées illégitimes dans leur fonctionnement et peut-être même dans leur existence. Ensuite, on a la cerise sur le gâteau. C'est ces politicards-là, je vais dire les monsieur, l'ex-président George Bush, le général tueur de Saddam Hussein, Colin Powell, qui arrivent et qui disent oui, ben, le président s'est éloigné de la Constitution en évoquant l'éventualité des militaires qui pourraient venir comme ça lutter contre les manifestants. Donc, eux, ils voteront pas pour lui. Eux, les républicains, vous vous rendez compte? Ils voteront pour Joe Biden. Ben, évidemment, ils voteront pour Joe Biden. Les gens. Shlomo Sand a dit de ne pas parler du sionisme parce que le sionisme et le judaïsme avaient des objectifs totalement opposés. Bon, on va laisser tomber leur gangstérisme là. Et derrière, il y a Mitt Romney, oui, lui, il a raté lamentablement la compétition présidentielle. Donc, il y a des rancœurs personnelles qui viennent se traduire en posture politique, mais c'est. terrible. Donc tous ces illégitimes sont arrivés, on ne vote pas pour M. Trump. Bon, on s'en fout, vous êtes illégitime, ça ne change rien. C'est une classe politique qui, depuis jusqu'à M. Trump, parce que M. Trump, c'est trop facile de l'accuser, il a trouvé la situation, Obama était là, tous, de gauche ou de droite, sont... Je dis, c'est même le problème. Ils n'ont rien fait pour lutter contre ce problème-là. Et ils osent aujourd'hui venir se présenter pour faire un procès en illégitimité au président de la République, enfin, de la République, oui, américaine. Ensuite, l'illégitimité. Le coronavirus, voilà, il faut bien qu'on en parle. Toujours l'illégitimité, des rapports qui avertissaient depuis, notamment un rapport allemand qui disait bien que c'est pas vrai, c'est exagéré, cette alerte du coronavirus. On voit que 3 mois après, les choses retombent un peu à plat. La Nouvelle-Zélande dit qu'elle a fait 40 000 tests, que ça fait 17 jours, il n'y a plus personne qui a atteint, on n'a relevé aucun cas, et que par conséquent, puisque le temps d'incubation est de 14 jours, tous les verrous sont levés, plus de distance sociale, plus de masques, plus d'interdiction de regroupement, tout repart normal. Nouvelle-Zélande. La France, elle dit, voilà, elle se met à nous parler de quoi? Elle nous parle... Macron sort, il dit qu'il y a un vaccin et ce vaccin sera obligatoire. Si les Africains ne le font pas, ben ils viennent plus en gros à l'espace Schengen que voilà les Juifs entre parenthèses contrôlent. Bon, c'est de bonne guerre. On verra bien ce que ça donnera, puisque dans le même temps la Chine aussi a inventé cherche son vaccin, chacun cherche son vaccin et la Chine va le donner gratuitement. On fera donc quel vaccin? Je veux dire, on est là. Encore toujours dans l'illégitimité d'un truc qui a été grossier, monté de toutes pièces, peut-être pour contrôler l'immigration, et puis voilà. L'illégitimité toujours. Et la Fed aussi, tout aussi illégitime, qui a prêté l'argent, tout comme la Banque Centrale Européenne, on joue avec l'euro, c'est une monnaie de casino qui ne veut plus rien dire. Un économiste a fait une étude, c'est un site, il faut que je m'en souvienne, je crois que c'est un site qui s'appelle l'or, je ne sais plus, et qui dit que le dollar a perdu 99% de sa valeur et il ne reste plus que 1% comparativement à l'or. C'est vous dire parce que la Fed et l'Union européenne et les banques centrales, ça tire l'argent. Cet argent, c'est que des prêts, c'est pas de l'argent produit, c'est de l'argent fabriqué. Et donc, économiquement, ou sur le plan de la richesse des nations, cet argent ne vaut absolument rien. Une économie comme ça, j'allais dire voyous, des finances voyous, financées par des finances voyous, qui ne sont pas arrimées à la réalité de la productivité de l'État, mais plutôt à quelque chose de volatile comme ça. Bah, évidemment, vous prenez des prêts, mais comparativement à la valeur stable au standard or, cette monnaie ne vaut plus rien, le dollar ne vaut plus rien, l'euro... forcément, puisque tout ça, et les transactions se font en dollars dans le monde entier, et que c'est le même processus qui est adopté, même l'Allemagne est entrée dedans, on tire de l'argent. Donc à ce moment-là, on peut faire des politiques désastreuses, les responsables ne risquent rien, puisque de toute façon, les banques sont là pour les couvrir. Illégitimité, et des politiques, au sens institutionnel, et des politiques monétaires, et des politiques financières. Ce procès à l'illégitimité, c'est l'affaire de la fin de cette ère christianiste. Je ne sais pas si on doit appeler ça christianisme, mais je ne sais pas, vous voyez un peu ce que je veux dire. On rentre dans un nouveau temps, et ce temps-là appelle, donc, enfin peut-être des procès légitimes, et des institutions légitimes. Et je ne sais pas, ici au Cameroun, je vais terminer là-dessus, parce que les autres, je ne sais pas ce qu'ils feront pour arriver à cela. Ici au Cameroun, on a le même procès en illégitimité qui est fait au chef de l'État, parce qu'on ne le voit pas depuis l'incident du corona. Et il y a eu un discours le 20 mai, mais qui n'était pas convaincant, parce que... Il y a eu ce qu'on appelle une tentative de deep fake, C'est-à-dire qu'on n'avait pas une correspondance exacte entre les propos qu'on entendait et la gesticulation, la gestuelle, pardon, pas la gesticulation, du président qu'on nous présentait. Il y avait un décalage flagrant qui était très, très embêtant et on ne comprend pas pourquoi. Donc on se dit, est-ce que le président vit encore? Est-ce que... Bon, on ne sait plus qui dirige le Cameroun. Est-ce que c'est l'entourage? Le président, on attend juste des décrets, il a signé, il a vu ci, il a fait ça. De temps en temps, on envoie une image de la présidence, on ne sait rien. Franchement, par rapport à la présidence américaine, où on voit Trump, on est rentré juste dans le bureau ovale, il y a une transparence quand même qui frappe aux yeux et qui contraste avec l'opacité du fonctionnement de la gouvernance au Cameroun. Le Cameroun est pris en tenaille parce que dans ses procès d'illégitimité, d'abord il y a eu des discussions, on l'a parlé ici, sur le vote, et le vote, pas seulement celui-ci, les élections en général. Qu'est-ce qu'on fait si le président Biya venait à mourir aujourd'hui, alors qu'il y a une tension extrême, ethnique, entre ce qu'on appelle les Bamileke, qui représentent, que représente M. Kamto, et les Boulous, que représente M. Biya, qui ont visiblement un compte à régler. Bon, on ne sait pas. Il semblerait qu'on parle de gré à gré, transition, ou transmission, je ne sais plus comment, le pouvoir, qui fait que peut-être qu'on va reviser la Constitution, en passant par l'Assemblée nationale, pour... Peut-être on nous dit, on nous parle d'un poste de vice-président qui pourrait alors succéder automatiquement, comme aux États-Unis, en cas de vacance ou d'empêchement du président camerounais. On ne sait pas, on est dans les spectatives. Ce vice-président, ce serait qui? Parce qu'on a un premier ministre qui est là, mais qui constitutionnellement n'est pas celui qui pourrait remplacer le président en cas d'empêchement ou de mort ou de vacances. Et ce serait le président du Sénat qui lui aussi est plus ou moins donné mourant. Je veux dire, on est ici aussi dans une fin de règne calamiteuse. On attend. Qu'est-ce qui va en sortir? On ne sait pas. Et certains se disent, mais pourquoi ne pas prendre les émeutes, la rue, comme à la suite du meurtre de George Floyd? Bon, c'est pas du tout quand même la même chose, mais disons que ce procès en illégitimité qui traverse toutes les institutions mondiales, y compris l'OMS, vous savez, on le vit ici au Cameroun, en direct. Bien, mes amis, ça, si j'aurais pu continuer. Vous avez écouté Flash sur le monde par Élise Mbok depuis le Cameroun, on va dire comme ça. Et je ne peux que vous souhaiter de vous porter bien et puis de mettre très bien en tête cette histoire de légitimité sur laquelle nous sommes tous convoqués à travailler. Amis de Radio Silence, à bientôt.